OK, on va commencer notre 26e leçon dans notre série « Le péché, les 10 commandements et la grâce ». Aujourd'hui, on va voir le 6e commandement de Dieu, donc ce qui est requis et aussi ce qui est défendu. Dans les 4 premiers commandements de Dieu, ça concerne nos devoirs envers Dieu lui-même. Alors, le premier commandement de Dieu concerne qui nous devons adorer. Le deuxième commandement de Dieu concerne comment nous devons adorer. Le troisième commandement de Dieu que nous devons, nous commande de craindre et de ne pas utiliser son nom en vain. Le quatrième commandement de Dieu concerne qu'un jour sur 7 lui soit pleinement consacré pour l'adoration, que ce soit individuel, familial et collective, et ainsi que le repos. Les 6 derniers commandements de Dieu concernent nos devoirs envers notre prochain. Ce sont les 6 piliers de l'ordre social du monde. Pas seulement des lois, mais aussi de l'amour. Alors, le 5e commandement concerne nos devoirs envers nos parents et les autorités en général. Alors, qu'il nous disait « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Le 6e concerne nos devoirs envers la vie humaine et la protection de la personne. Alors, Exode, chapitre 20, verset 13, assez simple, 4 mots, tu ne tueras point. Alors, on va commencer par faire quelques observations générales sur le 6e commandement. Alors, le 6e commandement de Dieu souligne le caractère sacré de la vie humaine, et ceci pour 3 raisons. Première, tous les hommes sont des créatures de Dieu. Alors, on peut lire dans Actes 17, versets 26 à 28. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Alors, pourquoi on se doit de considérer le caractère sacré de la vie humaine? Parce que tous les hommes sont des créatures de Dieu. Deuxième raison, les hommes sont faits à l'image de Dieu. Genèse, chapitre 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Troisième raison, c'est le commandement explicite de Dieu qui demande que toute bête qui répand le sang de l'homme doit être tuée. Exode 21, verset 28. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée et le maître du bœuf ne sera point puni. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper et qu'on en ait averti le maître qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuerait un homme ou une femme et son maître sera puni de mort. Alors on voit que c'était sévère et on voit l'importance que Dieu accorde à la vie humaine à l'intérieur de ces passages-là. Alors, malgré ce qu'on vient de mentionner, on sait qu'il y a sur la Terre des millions d'êtres humains qui meurent de faim chaque année, sous nos regards, plus ou moins indifférents. Le 6e commandement de Dieu est le plus court. Cependant, il est le plus fort de tous les commandements. La société va pardonner les athées, les idolâtres, les profanateurs du jour du sabbat, les rebelles ou les irrespectueux des parents ou de l'autorité, les adultères, les violents, les faux témoins, les gens épris de convoitise, mais ne laissera pas le meurtrier impuni. Nous devons cependant savoir que certaines choses ne sont pas défendues par le 6e commandement. Alors, il ne faut pas le prendre d'une façon absolue. Il faut considérer certaines ce qui est déclaré dans les Écritures ailleurs. Alors, quand tu dis « tu ne tueras point », ça n'implique pas qu'on ne puisse pas tuer les animaux pour se nourrir. Parce que dans Genèse 9, verset 3, on lit « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Et aussi, l'idée de se défendre, alors s'il y a un voleur qui s'introduit dans ta maison et que tu le tues, tu n'es pas coupable. Exode 22, verset 2, « Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. » Aussi, il y a l'autodéfense. Donc, si quelqu'un est attaqué, il se défend, et en se défendant, prend la vie d'une autre personne, n'est pas coupable pour ça. La guerre aussi est considérée comme n'étant pas, faisant pas partie des manquements au commandement. Et la peine capitale, Genèse chapitre 9, verset 6, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Alors, le deuxième point qu'on va regarder, c'est ce qui est requis par le sixième commandement. Bien sûr, la préservation de notre vie et aussi de celle des autres. Éphésiens, chapitre 5, versets 28 et 29, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » On a aussi dans Matthieu, chapitre 10, verset 23, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, le Fils de l'homme sera venu. » Alors, un roi, chapitre 18, verset 4, « Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50, dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. » Alors, on voit la préservation de notre vie, notre devoir, non seulement envers notre vie et celle des autres. On voit, par exemple, Abdias, qui avait voulu sauver la vie de 100 prophètes en les cachant dans une caverne et en les nourrissant. Ce qui est requis, deuxième point, la résistance aux pensées violentes. Parce qu'on sait que les Écritures nous enseignent que tout commence par la pensée. Si on nourrit les pensées violentes, on va finir par développer des comportements violents. Genèse, chapitre 49, versets 5 et 6. « Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. » 1 Samuel, chapitre 19, versets 4 et 5. « Jonathan parla favorablement de David et Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? » Donc, la préservation de notre vie, celle des autres, la résistance aux pensées violentes, la deuxième. La troisième, la prévention de la colère. Autrement dit, on se doit de réprimer nos colères. Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Alors, on voit que par ce verset-là, que si on ne règle pas notre colère rapidement, on donne accès au diable dans nos vies. Psaume 37, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Quatrième chose requise par le sixième commandement, la patience, la patiente endurance des épreuves. Jacques 5, versets 10 et 11. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Cinquième chose qui est requise, la sobriété. La sobriété dans le manger, sobriété dans le boire, sobriété dans le sommeil, sobriété dans le travail et sobriété dans la récréation. Comme je vous ai déjà mentionné, le livre que j'utilise, ici je prends deux ou trois versets pour chaque point, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Des fois, ça serait intéressant d'avoir le temps d'aller tout voir ça parce que les Écritures sont riches pour nous parler de ces choses-là. Alors, la sobriété. On vit dans une époque où la sobriété n'est pas la qualité de ce qui se passe en général. Et il ne faut pas penser que toute cette influence-là ne finit pas par venir nous toucher aussi, puis qu'on adopte des comportements qui ressemblent à ceux des païens. Alors, la sobriété. Proverbe, chapitre 23, verset 20. « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. » Psaume 127, verset 2. « En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Ecclésiaste, chapitre 5, verset 12. « Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. » Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de manquements dans le monde pour tous les manquements envers la sobriété. Manger, boire, sommeil, travail, récréation, souvent ça prend des proportions trop grandes. Et il faut demander au Seigneur de nous sonder, voir s'il n'y a pas dans nos propres vies des choses, des manquements face à la sobriété. Sixièmement, l'entretien des pensées charitable. Colossiens, chapitre 3, verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Jacques, chapitre 3, verset 17. « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 11 à 13. « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Et septièmement, l'esprit de pardon. Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Je pense que là-dessus aussi, il y a beaucoup de manquements dans l'Église de Jésus-Christ de nos jours. Éphésiens, chapitre 4, versets 1 et 2 et verset 32. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Des fois, c'est surprenant de voir des fois dans des églises des choses qui se passent, des manques de pardon envers. Et le Seigneur, il nous dit dans les Écritures que si tu ne pardonnes pas ton frère, ta prière, lui non plus ne te pardonnera pas. Alors, c'est ce qui explique peut-être des fois qu'il y ait des difficultés dans les églises parce que les gens n'arrivent pas à se pardonner. Alors, je pense qu'une des causes de ça, c'est l'emphase trop grande sur notre offense, l'offense que la personne nous a faite à nous. Mais je pense que le verset 32, il faudrait le méditer très profondément. « Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors, la marge est énorme. Alors, on ne se devrait jamais qu'il y ait quelque offense que ce soit qu'on ne serait pas capable de passer par-dessus. Parce que si on met trop, l'accent sur notre propre personne, autrement dit, on dit « Ah, celle-là, il ne l'amènera pas en paradis, j'en veux. » Et là, tu fais semblant que tu as pardonné, mais tu boudes, tu n'y parles pas, tu tiens l'écart. Il ne faut pas t'oublier qu'en faisant ça, tu te prives toi-même de bénédiction et tu installes dans l'Église un climat qui est mauvais. Alors, comme Christ vous a pardonné, alors si on vraiment mettrait l'accent sur Christ, alors pensez à toutes les offenses que tu as faites. Puis Christ les a pardonnées toutes. Peu importe les péchés que tu as faits dans ta vie, envers ton prochain, envers Dieu, il t'a tout pardonné à la perfection. Et nous, on se garderait de la rancune. C'est parce qu'on ne comprend pas, on n'applique pas le verset 32. Là. Vous pardonnez comme Christ vous a pardonné, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Romains 12, versets 17 et versets 20 et 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant les hommes. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Autre chose qui est requis par le sixième commandement, réconforter et secourir les gens en détresse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Nous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Matthieu 25, verset 35 et 36. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu. Vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Vous allez voir dans le bulletin de cette semaine, on a introduit un nouveau personnage, celui qu'on appelait le frère André. Dans le fond, c'est pas le frère André là, de Montréal, là. C'est vraiment un Hollandais qui, durant la guerre, a commencé à transporter des Bibles dans les pays communistes. Il a une vie assez extraordinaire, ce bonhomme-là. Alors, on va commencer à regarder ça. Mais ce que ça m'a fait prendre conscience, c'est qu'il a parti un nouveau ministère qui s'appelle Porte ouverte. Et dans ce ministère-là, quand tu vas sur son site web, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas encore décédé, mais il doit être très âgé. Il doit avoir d'un 80 au-dessus. Et il mentionne les pays où les chrétiens sont persécutés. Il a fait une liste des 50 pays les plus persécutés, où les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde. 50! Et là, hier, je faisais juste regarder, parce que tu peux cliquer sur chacun des pays, ils te donnent un peu des détails sur ces gens-là. Et le pire, c'est la Corée du Nord. Hier, je regardais, et ils donnent une description, peut-être l'équivalent d'une page, sur ce qui se passe dans ces pays-là. Quel traitement on donne aux chrétiens? C'est épouvantable. Nous, on vit dans la ouate ici. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur nous a commandé de prier pour ceux qui sont en prison, de penser à eux. Ce n'est pas tellement agréable de lire ça parce qu'on voit des côtés de l'homme qui sont très durs. Et on n'est pas porté à ça, à aller voir ce que les chrétiens dans le monde souffrent. On est un peu centré sur nous-mêmes. Moi, je veux que ça change parce que j'aimerais commencer à conscientiser l'Église sur ces différents pays-là. Et qu'on les mette au trône de la grâce. Dieu nous demande de le faire. Si on ne le fait pas, on est en manquement quelque part. On pêche par omission. Okay. Alors, ça me fait penser à ça. Réconforter, secourir les gens en détresse. Plus en détresse que ça, là. Il suffit de... Puis là, ils ne donnent pas les détails. Ils font juste nous dire, en gros, ce qui se fait. C'est épouvantable. Si un gars se fait pogner avec une Bible, en Corée du Nord, non seulement lui, il est puni, battu, persécuté, maltraité, privé de tous ses droits civils, mais aussi sa famille. Ça veut dire, non seulement le gars, même si sa famille ne l'a pas nécessairement suivi, ben ils vont punir sa famille également. C'est épouvantable. Quand on pense à ça, là, puis il parle du nombre de chrétiens qu'il y a dans ce pays-là. Mm. Et dans tous les autres pays, on se doit de prier davantage, je pense, pour ces gens-là. L'autre point, protéger et défendre l'innocent. Proverbe 31, versets 8 et 9. « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Ésaïe 58, verset 7. « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Ça aussi, c'est une attitude qu'on est porté naturellement à rejeter les gens qui sont dans la misère, dans la souffrance. On dirait qu'on veut fermer les yeux là-dessus. C'est pas ça que les Écritures nous demandent. Alors, des fois, il faut se faire violence, il faut demander au Seigneur de nous rendre plus sensibles aux besoins des autres. Deuxième point qu'on va regarder, donc on a regardé en premier ce qui est requis. Maintenant, on va regarder ce qui est défendu par le sixième commandement. Donc, il y a ce qu'on peut appeler les péchés directs. Donc, le meurtre prémédité, quelqu'un qui pense à quelqu'un qu'il n'aime pas puis trouve des moyens de le tuer, que ce soit directement ou indirectement, et commet un meurtre prémédité. Après ça, il y a le suicide. Alors, à l'intérieur du suicide, il y a des personnes qui s'enlèvent la vie eux-mêmes. Il y a les personnes qu'on appelle le suicide assisté, donc qui commencent de plus en plus à être à la mode, où les médecins vont pouvoir te piquer, vont t'enlever la vie. Et on a aussi l'euthanasie, les personnes sont en souffrance, donc ils décident qu'ils veulent en finir, et les médecins vont participer à ça. Donc, c'est des péchés directs contre le sixième commandement, tu ne tueras point. L'homme ne peut pas s'arroger des prérogatives qui appartiennent à Dieu seul. Autre péché direct, la justice populaire violente. Par exemple, ce qu'on faisait dans le sud des États-Unis durant le temps que les Noirs étaient là, le lynchage. Ils trouvaient, je ne sais pas si c'était toujours fondé, mais souvent, c'était la justice populaire. Pas de procès. Ah ouais, on pense que c'est lui qui est coupable. Et on n'entend même pas sa défense. Alors, ça aussi, c'était un meurtre, dans le fond. Et chacun de ceux qui participent à ça était coupable. Fait que quand tu es une gang de 100 hommes, ah, on le tue. Ben, les 100 hommes, c'est 100 meurtriers, dans le fond. L'avortement, bien entendu. Je n'ai pas de statistiques, mais on aurait pu sortir des statistiques. Aujourd'hui, c'est par millions et qu'on tue les bébés dans le sein de leur mère. Les duels, je ne sais pas si ça se fait encore, mais je sais que durant l'époque du 19e siècle, par exemple, c'était très courant. Dans le livre que je me sers, il donne des statistiques sur le nombre de duels qu'il y avait à l'époque en France, en Angleterre, un peu partout en Europe. Pour la moindre petite insulte, on prenait son gant. Et là, on faisait tant de pas et on se tirait l'un l'autre. C'est épouvantable. Des péchés d'orgueil. Donc, c'était des péchés en même temps contre le sixième commandement. Donc, on vient de voir les principaux péchés directs. On va regarder aussi les péchés indirects. Qu'est-ce qu'on entend par un péché indirect? C'est les péchés qui, si on les laissait se développer, mèneraient carrément éventuellement à la violence, au meurtre et à ces choses-là. Alors, comme la haine, par exemple, Matthieu 5, versets 21-22, le Seigneur Jésus faisait comprendre ici aux pharisiens, aux sadducéens, que, dans le fond, c'est pas juste une obéissance extérieure au commandement, c'est une obéissance qui va jusque dans tes sentiments intérieurs. Et vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. » Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Et bon, quand on regarde ça, là, combien de fois dans nos vies on peut avoir dit de quelqu'un « Ah, oh, t'es un nounou, t'es un cave, t'es un ci, t'es un ça. » Et regardez ce que le Seigneur dit lui-même, le Seigneur Jésus-Christ dit lui-même, que quand on dit ça de quelqu'un, « Raca » ou « Insensé », mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Ce n'est pas des péchés légers, là, des péchés très graves. 1 Jean chapitre 3, verset 15. « Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Donc la haine, un autre péché indirect, l'envie. Proverbe 14, verset 30. « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » La vengeance ou l'envie de vengeance, Romains 12, verset 19. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alors, c'est vraiment ici, c'est une question de foi au Seigneur qui, lui, va amener le correctif nécessaire, mais dans les bonnes... nous, c'est toujours trop ou pas assez. L'être humain, c'est toujours trop ou pas assez. Donc, on a aussi les passions excessives. Jacques 4, verset 1. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Et autre péché indirect, l'immodération dans le boire, dans le manger, dans le sommeil, dans le travail ou dans les récréations. Luc 21, verset 34. « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Alors ici, le Seigneur, il parle à des disciples. « Prenez garde à vous-même. » Alors, ça veut dire qu'on a tous cette tendance-là de trop manger, de trop boire. Et aussi les soucis de la vie. Romains 13, verset 13, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » 9, les mots ou les paroles blessantes. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe chapitre 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. L'oppression maintenant. Ésaïe, chapitre 3, verset 15. « De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Les querelles. Galates, chapitre 5, verset 15. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Les sports et les pratiques extrêmes. Donc, c'est tout ce qui, en fin de compte, met la vie en risque inutilement. Tout ce qui peut tendre à la destruction de la vie. Exode 21, verset 29. « Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, qu'on en ait averti le maître qu'il ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé. Dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. » Quand on regarde aujourd'hui le nombre de sports extrêmes qui se pratiquent, les gens sont toujours en train de mettre leur propre vie en danger. Non seulement ils mettent leur propre vie en danger, mais quand il arrive un accident, qui va payer pour les coûts énormes de tout cela? Parce que pas souvent, ils se blessent tellement de façon importante que l'État va les supporter pour le reste de leur jour. Alors, quelque part, c'est pas une bonne chose. Aussi la rancœur, donc la haine perpétuelle. Ézéchiel, chapitre 25, verset 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle. Alors, on a bien sûr l'exemple des Palestiniens et des Juifs qui sont en guerre depuis pas des générations, des milliers d'années. Quand on regarde ça, là, les Philistins et les Juifs, c'est de la haine éternelle. Quand on dit éternelle, c'est qu'ils se transmettent ça de génération, ils montrent ça à leurs enfants. Leurs enfants, ils naissent dans l'idée que ah, les Juifs, ce n'est pas bon. Puis la même chose de l'autre bord, c'est pas juste un sur un bord. Mais on peut des fois être porté à penser que ça arrive juste dans ces vieux pays-là. Qu'on se rappelle, il y a quelques années, au Québec, les Français et les Anglais, c'était presque une haine éternelle aussi. C'est comme, ils se transmettaient un genre de quelque chose de malsain. Il faut faire attention pour ne pas développer ces choses-là, parce qu'on a cette tendance-là. Le manque de miséricorde est une autre chose qu'on se doit faire attention. Jacques 2, verset 13. « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » La miséricorde triomphe du jugement. Autre chose qui est défendue, c'est se réjouir du malheur d'autrui. Proverbe, chapitre 17, verset 5. « Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. » L'orgueil. Proverbe, chapitre 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Proverbe 16, verset 5, tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. L'excès de boissons alcooliques, bien entendu. 1 Corinthiens 6, verset 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, comme application, j'ai voulu rappeler un petit peu ce que nous dit notre confession de foi baptiste de Londres de 1689, sur le chapitre 19 qui concerne la loi de Dieu, les paragraphes 5, 6 et 7. On va les relire. La loi morale oblige à l'obéissance pour tous les hommes, qu'ils soient justifiés ou non. Cela, non seulement en rapport à son contenu, mais aussi concernant l'autorité de Dieu le Créateur qui l'a donné. Christ, dans l'Évangile, loin de l'abroger, en a considérablement renforcé l'obligation. Chapitre 6, paragraphe 6. Bien que les vrais croyants ne soient pas sous la loi en tant qu'alliance des œuvres pour en être justifiés ou condamnés, elle leur est cependant d'une grande utilité, comme elle l'est aux non-croyants. En tant que règle de vie, elle leur enseigne la volonté de Dieu et leurs devoirs. Elle les dirige et les oblige à s'y conformer. Elle leur fait aussi découvrir les pollutions coupables de leur nature, de leur cœur et de leur vie, de telle sorte qu'en s'examinant eux-mêmes, ils puissent en arriver à être profondément convaincus de leur péché, à s'en humilier et à le haïr, et aussi à acquérir une plus claire vision de leurs besoins de Christ et de la perfection de son obéissance. En ce qu'elle interdit le péché, la loi est également utile aux régénérés pour qu'ils réfrènent leur corruption. Ces menaces servent à leur montrer ce que leur péché mérite et quelles afflictions ils peuvent s'attendre en cette vie, bien qu'ils soient délivrés de la malédiction et des rigueurs sans indulgence de la loi. De même, ces promesses leur montrent que Dieu approuve l'obéissance et leur font connaître les bénédictions auxquelles ils peuvent s'attendre en la pratiquant, non toutefois comme un dû de la loi en tant qu'alliance des œuvres. C'est pourquoi le fait de pratiquer le bien et de s'abstenir du mal, parce que la loi encourage l'un et interdit l'autre, n'est en rien une preuve que la personne soit sous la loi et non sous la grâce. Alors, ce serait des choses à étudier plus en profondeur. Le septième paragraphe, les usages de la loi mentionnés ci-dessus ne sont pas contraires à la grâce de l'Évangile, mais s'accordent harmonieusement avec elle. L'Esprit de Christ soumet la volonté de l'homme et la rend capable de faire librement et joyeusement ce que la volonté de Dieu, révélée dans la loi, exige de faire. Deuxième application, implorons le Seigneur de nous conscientiser davantage sur la rigueur des commandements et de nous donner un esprit de soumission et d'obéissance. Troisième application, que l'Éternel nous sonde pour nous montrer tous les manquements et tous les péchés en rapport avec le sixième commandement. Que notre grand Dieu soit loué, béni et adoré pour son saint décalogue et pour la grâce du salut en son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.